RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC dans l'Intégrale Rio 2016, la dernière journée de ces Jeux et encore des émotions à vivre en direct sur RMC. Vous n'allez rien rater jusqu'au bout, on va vivre aussi dans la nuit la cérémonie de clôture avec Teddy Riner qui sera à nouveau d'ailleurs le porte-drapeau français. On en débattra d'ailleurs un petit peu plus tard. Trouvez-vous ça normal finalement que Teddy Riner soit aussi le porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture vu les nombreux champions français qui ont brillé ici à Rio. Un très gros programme dans les 4 prochaines heures de l'intégrale Rio 2016 avec la Dream Team qui est là bien sûr. Sarah Pitkovski est avec nous. Salut Sarah.
Salut Loïc.
Serge Simon va nous rejoindre dans quelques instants. Sophie Camoun, Jacques Monclar aussi. Alors il y a de moins en moins de direct. Forcément on est à la fin de la compétition. On suivra quand même le marathon avec le départ dans maintenant une vingtaine de minutes. Et puis je vous redonne les 3 heures à retenir. 17h30, le VTT. Julien Absalon, double champion olympique qui va tenter d'imiter un certain Tony Estanguet pour aller chercher cette médaille d'or. On sera avec Georges Quirino pour vivre ça en direct bien sûr. À 19h, les handballeurs qui ont rendez-vous avec l'histoire, eux aussi double champion olympique qui vise une troisième médaille d'or consécutive après Pékin et Londres. La finale du hand masculin France-Danemark à 19h à vivre en direct et en intégralité. D'ailleurs l'intégrale Rio 2016 sera depuis la salle de handball avec une ambiance fantastique autour des bleus évidemment. Et à 20h15 la boxe et la finale, le dernier combat pour les Français qui nous ont fait rêver tout au long de ces Jeux. Finale des plus de 91 kilos, Tony Yoka face à l'anglais Joe Joyce. À suivre dans le programme de cette première heure de l'intégrale Rio 2016. Croyez-vous à un titre olympique pour l'athlète français à Tokyo? Un bilan fantastique de 6 médailles dont 3 en argent. Alors évidemment la perche fait partie des disciplines où nous sommes les meilleurs au monde, mais on a vu d'autres personnalités briller, Mélina Robert-Michon, Kevin Meyer, voire un Christophe Lemaître puisque Bolt ne sera plus là a priori du côté de Tokyo. Qu'en pensez-vous? 32-16. Et puis on fera également un point sur la boxe avec John Dovey, l'entraîneur de Tony Yoka. Essayer de savoir comment il se prépare pour ce dernier combat, son ultime défi dans ces Jeux Olympiques pour aller chercher la médaille d'or. Mais tout de suite, Neymar a-t-il refermé la plaie du Mondial 2014 puisque le Brésil hier a remporté sa finale olympique, un partout à l'issue du temps réglementaire, à l'issue de la prolongation. Et finalement Neymar qui met ce tir au but décisif, 5 tirs au but à 4 pour les Brésiliens. C'était dans la nuit, hein, c'était effectivement dans la nuit. Neymar, Sarah, on en a déjà débattu avant la rencontre, mais ce qui s'est passé hier, la dramaturgie du match face à l'Allemagne est exceptionnelle. Est-ce que pour toi, au niveau émotionnel, on était peut-être proche d'un succès en Coupe du Monde hier au Maracana?
Alors de mon point de vue, pas vraiment. Mais alors je peux t'assurer que du point de vue des Brésiliens, ça c'est certain. Parce que pendant 2h30, la ville, elle s'est arrêtée de vivre. Il n'y avait plus personne dans les rues. C'est la première fois qu'on allait d'un point à l'autre aussi rapidement. Et tant de comprendre qu'en fait, effectivement, les gens s'arrêtent. Et de voir à ce moment-là les cafés se remplir, les cariocas s'entasser les uns derrière les autres au moment des tirs au but, c'est là qu'on prend conscience véritablement de ce que représente le foot pour eux. Je suis pas sûre que ça remplace la Coupe du Monde parce que ils ont quand même créé un mot hein, pour déterminer ce qu'a été ce Brésil-Allemagne en Coupe du Monde. Je pense que ça referme la plaie, mais pour eux ça restera quoi qu'il arrive cette Coupe du Monde quelque chose d'invivable, une torture. Mais je pense que ce titre olympique leur fait du bien dans le sens où j'ai le sentiment hein, pour eux quoi qu'il arrive avec ce titre olympique, leurs Jeux olympiques sont réussis. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure l'impact des 5 autres médailles d'or qu'ils ont eues dans d'autres disciplines a un impact aussi important que cette médaille. D'ailleurs, le ciel s'en est mêlé, hein,
parce
depuis qu'ils ont, ramené l'or, je sais pas ce que le Christ Rédempteur leur a fait, mais alors, le ciel s'en mêle, c'est un rideau de pluie depuis hier soir, depuis leur titre de champion olympique.
Non, mais c'est clair que hier, au niveau émotion, d'ailleurs, il y a certains membres de la team RMC Sport, là, qui étaient au Maracana, ils se sont régalés parce que l'émotion était incroyable dans le stade. On a eu des retours et des images fantastiques et des scènes, qui contrastait vraiment avec la détresse des supporters il y a deux ans lors du mondial. Et effectivement, Neymar, puisque c'est lui qui ouvre le score pour le Brésil dans cette rencontre avant l'égalisation allemande, et c'est lui qui est l'auteur du dernier penalty tir au but décisif. Il avait du mal à s'en remettre, il était totalement en pleurs, ivre de joie.
Oui, c'est impressionnant, les images.
Les scènes impressionnantes, effectivement. On est avec Axel qui est avec nous au 32-16. Salut Axel.
Salut, bonjour toute l'équipe.
Est-ce que Neymar a refermé la plaie du Mondial 2014 selon toi la nuit dernière?
Bien sûr que non. On va pas comparer les deux compétitions, donc les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Premièrement, en termes de réputation et d'importance pour un footballeur. D'ailleurs, on peut voir que beaucoup de joueurs ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques puisqu'ils ne sont pas libérés par leur club. Par contre, s'il y a une chose à prendre en compte, c'est que suite à la désillusion du Mondial 2014, la question de la relève et de la refonte du football brésilien se posait à l'issue de cette compétition. Et de voir que deux ans derrière, il y a une sélection de jeunes de 23 ans avec Neymar comme porte-drapeau qui tiennent son rôle de leader de cette génération, c'est plutôt de bon augure. Premièrement, pour dire que non, le football brésilien n'est pas mort et de répondre présent en 2018. Alors, est-ce qu'ils vont gagner? C'est un débat. Mais alors, avec ces jeunes qui sont cadrés, donc effectivement, par Neymar ou par d'autres comme Douglas Costa, qui sont pas si mieux que ça, au final, hein, c'est plutôt de bon augure pour la suite. C'est l'enseignement général à tirer des Jeux Olympiques. Après, effectivement, bon, il y a toute une liesse, toute une scène de joie qui est peut-être disproportionnée.
Disproportionné, je suis pas sûr parce que la Coupe du Monde restera au-dessus pour les Brésiliens, on est d'accord là-dessus. Mais le titre olympique était le seul qui manquait au Brésil, et c'était une vraie malédiction pour les Brésiliens. Il y avait eu trois échecs en finale. On va aller rappeler 84, la France remporte cette finale olympique en 84 face au Brésil. En 88, le Brésil s'incline face à l'Union soviétique. En 2012, il y a 4 ans, elle s'incline, cette Seleção, face au Mexique. Donc finalement, peut-être sur le côté émotionnel, c'était peut-être l'équivalent d'une Coupe du Monde quand même, vu qu'en plus on était à la maison, à domicile, au Maracana, face à l'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de... Ça, plutôt d'un exutoire, parce que la déception était tellement grande en 2014. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez... j'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Marseille qui a remporté une Coupe de la Ligue il y a l'année de la plus partie, justement. Ils avaient fait 20 ans sans gagner un seul trophée.
T'es en train de nous comparer une victoire en Coupe de la Ligue de Marseille à un titre olympique.
Là, il faut aller trouver les arguments, hein, parce que
c'est incroyable. Va jusqu'au bout, mais on t'attend au tournant avec ça,
voilà. Laisse-moi le bout. Ce que je suis en train de dire, c'est que justement, la Coupe de la Ligue que Marseille avait remportée, ça avait déclenché une telle liesse sur le Vieux-Port, qui avait fait un peu rire un peu tout le monde. Pourquoi autant de... autant de festivités pour une coupe de la Ligue. Voilà, l'aspect disproportionné, mais parce que les Marseillais étaient restés 20 ans sans gagner un trophée, même une coupe intertoto, ils ne la gagnaient pas. Et là, c'est un peu pareil, je veux dire que la frustration et la déception étaient tellement grandes il y a deux ans, que je pense que ces Jeux Olympiques ont servi d'exutoire et que la liesse était disproportionnée, même si les Jeux Olympiques, ça reste un beau trophée dans l'ensemble, bien sûr.
Oui, là tu parles de l'équipe, des supporters, mais il faut aussi comprendre que la désignation de Neymar pour mener cette équipe était d'une responsabilité colossale. Et quand tu vois hier les larmes de Neymar, mais tu te rends compte que il est juste vivant. Sinon, je sais même pas comment il aurait pu encore revenir sur sa terre natale. Il faut vraiment le voir pour le croire, en fait. C'est assez perturbant, même au point où depuis le début de la compétition, les Brésiliens, ils n'étaient pas du tout derrière leur équipe, au point même de transformer le Neymar, tu sais, et de le remplacer par la capitaine de l'équipe féminine du Brésil. C'est-à-dire ils n'étaient pas du tout derrière leur équipe. C'est-à-dire que il y avait un déni de cette équipe. Ils étaient persuadés que, parce que les premiers matchs étaient quand même
ça
très
jouait
poussif,
mal, absolument, ça jouait mal, au
c'était poussif. Donc c'est plus qu'une religion, c'est incommensurable, indescriptible. Ça fait partie de chaque Brésilien, et avec tout le respect que j'ai pour les Marseillais, quand ça descend dans les rues à Rio et peut-être ailleurs dans le Brésil, c'est pas totalement comparable avec le vieux port, si je peux me permettre. Parce que là, je peux te dire, tu pouvais traverser Rio.
Impossible de prendre un taxi, à ce temps-là, il y a ça.
Mais non, mais c'est pas possible. Bah, de toute manière, déjà, si tu montes dedans, tu pouvais pas lui parler. Il avait la musique, il avait juste la radio à fond.
La radio et même parfois la télé, ils ont des petits écrans,
des
mini tablettes pour regarder la télé en conduisant, tout va bien.
Tout à fait. Donc voilà, mais c'était assez étonnant de voir ce silence. C'est-à-dire que même dans les rues, il y avait les gens ne circulaient plus. Mmh. Et au moment des tirs au but, tu avais des cris qui stridents à chaque fois que le Brésil mettait le ballon au fond des filets.
Parce qu'Axel, juste pour s'arrêter sur Neymar quelques instants, rappelons qu'il était blessé, qu'il s'est blessé pendant la Coupe du Monde il y a 2 ans. Il n'était pas là face à l'Allemagne pour cette fameuse demi-finale et ce traumatisme, cette défaite, cette humiliation, 7-1. Et effectivement, pour revenir sur ce que disait Sarah, lui confier la responsabilité d'être capitaine de la sélection pour aller chercher ce titre olympique, la pression était monstrueuse sur lui et hier, il répond présent quand même, Axel.
Oui, bien sûr. C'est un des grands enseignements à tirer, c'est que c'est rassurant de savoir que le Brésil a un taulier, un leader pour mener son équipe vers, je l'espère, des succès futurs. C'est l'enseignement à tirer de la prestation d'ensemble de Neymar sur ces Jeux Olympiques, qui a su prendre ses responsabilités. Voilà.
Et puis juste Sarah, rappelons le format du tournoi olympique en foot, c'est qu'on est limité à l'âge de 23 ans pour donc c'est vraiment dédié aux jeunes. Il y a que 3 joueurs dans l'équipe qui peuvent être plus âgés que 23 ans. Effectivement, preuve quand même que le Brésil a su trouver des ressources pour rebondir après l'échec brésilien. C'est-à-dire que ce succès dans le tournoi olympique peut être le départ d'une nouvelle ère pour la sélection ou quoi, ça.
C'est ce que j'ai dit en introduction, c'est que pour moi le principal sur ces Jeux Olympiques, c'est que toutes les conclusions un peu hâtives et les inquiétudes peut-être justifiées sur le fait que le Brésil n'a perdu son fond de jeu, a perdu son football, n'a plus de relève, n'a plus de pépites, c'est une belle réponse que ces jeunes ont pu apporter. Et ça peut laisser susciter pas mal d'espoir pour la Coupe du Monde 2018, qui doit être désormais le prochain objectif. Ils vont tous arriver à maturité, donc s'ils ont moins de 23 ans, ils auront tous entre 23 et 25 ans dans 2 ans, j'imagine. Donc, accompagnés de Neymar, de Douglas Costa, de quelques autres qui ont dépassé les 23 ans, mais qui seront toujours dans des grands clubs, on peut espérer de belles choses pour le Mondial 2018. Mmh.
Sarah, on ne dit pas que tout va bien maintenant dans le foot brésilien, mais ça va permettre de repartir sur des bases un peu plus sereines.
Voilà, exactement, c'est ça.
Sarah.
Oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense que le fait que ce soit déroulé au Brésil, ça va aussi apaiser. Je pense que ils vont pouvoir construire une équipe. Ils vont retrouver cet amour derrière la Seleção. Après, en termes techniques et en termes de réservoir, je suis pas assez technicienne pour juger tout ça. Mais forcément que ça a une connotation extraordinaire et je pense que ce titre olympique est juste fantastique pour je pense pour les souffrances et tout ce que les Brésiliens, tout ce que les Cariocas ont subi avec ces Jeux Olympiques, parce que effectivement l'accouchement des Jeux Olympiques, faut pas se tromper, il a été compliqué, il y a une grande frange de la population qui est totalement écartée. Alors je sais pas si ce public là était dans le Maracana hier, parce que les places étaient quand même relativement chères, hein, quasiment l'équivalent de 400 €.
Ouais, peut-être que là certains ont fait l'effort quand même, mais bon.
Ouais, en tout cas ils seront peut-être capables de faire l'effort pour le foot, pour les autres sports c'est plus compliqué. Après oui, j'espère que ça pourra permettre de construire cette équipe, mais enfin les deux piliers de cette équipe, ça a été effectivement Neymar et puis le gardien Weverton.
Ouais.
Qui a été énorme. Je sais pas comment il a.
Sauf sur la séance de tir au but, puisque finalement il y a eu aucun raté, aucun arrêt de gardien, sauf le dernier tireur allemand. Les tireurs ont été plutôt bons sur la séance de péno. En tout cas, merci à Axel. On poursuit le débat. Hein. N'hésitez pas, appelez-nous 32-16. Neymar a-t-il refermé la plaie du Mondial 2014? Serge Simon nous rejoint dans quelques instants. L'intégrale Rio 2016 se poursuit. Dernière journée de compétition. Je vous redonne les horaires à suivre. 17h30. Le départ. départ du VTT avec Julien Absalon notamment. Il y aura deux autres Français, mais c'est lui la principale chance de médaille et de titre olympique. 19h, la finale du hand France-Danemark pour une troisième médaille d'or consécutive. Et à 20h15, la boxe, la finale de Tony Yoka, bien sûr. Tout cela à vivre en direct sur RMC.
RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
La dernière journée de compétition ici à Rio pour ces Jeux Olympiques. On va encore se régaler sur RMC. Sarah Pitkovski est avec nous. Serge Simon nous a rejoint. Salut Serge.
Salut les amis. Bonjour Sarah.
Encore des chances de médailles, des chances de titres olympiques pour la délégation française qui a déjà un bilan record de 42 médailles d'assurées. Pourquoi pas une supplémentaire, bien sûr. Les émotions seront au rendez-vous. Et d'ailleurs, si vous arrivez pour la première fois de ces Jeux sur RMC dans l'intégrale Rio 2016, eh bien regardez ce que ça donne.
Écoutez, il n'y avait que 24 heures pour se remettre sur les rails pour aller combattre.
Maxime Beaumont toujours en tête. S'il ne s'écroule pas, il y aura une très bonne nouvelle dans quelques instants. On a passé la mi-course maintenant. Il est toujours devant Maxime Beaumont. Il fait la course en tête depuis le début de cette course. Attention, attention quand même au Britannique qui va revenir. Le Britannique va revenir. Il vient de passer devant. Non, il est toujours devant. Allez Maxime, il faut s'accrocher, il faut aller chercher un podium. Allez Maxime, le Britannique est devant maintenant. Maxime Beaumont qui ne sera vraisemblablement pas champion olympique, mais c'est un podium.
Sur le moment, j'étais pas très content parce que je voulais gagner.
C'est une médaille d'argent pour Maxime Beaumont.
Là, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre un petit peu de repos dans les prochains jours.
D'abord, c'est des filles bien, il faut le souligner.
Il nous aurait dit il y a un mois une médaille, on n'aurait même pas voulu savoir quelle couleur.
Allez, faut tenir cette défense, c'est là, elle se joue cette finale, cette chance pour les Françaises de revenir de cette partie si elles sont capables de stopper cette attaque. Elles peuvent faire douter encore une fois une équipe russe, elles l'ont fait contre les Espagnols. De toute manière, le tournoi est réussi, mais il reste encore 1 minute 30, et 1 minute 30, il peut se passer des choses.
Le ballon qui va être rendu aux Russes parce qu'il y a une petite faute là d'Alison Pinot, et
le contre, ça passe, et les Russes qui crucifient peut-être les Français sur cette action là.
Pour revenir de deux buts, c'est quasiment impossible pour l'équipe de France. 45 secondes à jouer maintenant, les Russes bien sûr qui vont gagner tout le temps possible. Il n'y a plus grand chose à faire de la part de l'équipe de France, peut-être pas assez libéré dans cette rencontre, peut-être trop stressé.
C'est fini, c'est
ça
fini.
Fait 22-19, il reste 20 secondes.
C'est la Russie.
C'est la Russie qui va s'imposer, bien sûr. Il reste 8 secondes à jouer dans cette partie. La possession est française. Les Françaises qui vont attendre. Et que de toute façon, c'est un tournoi réussi pour l'équipe de France. C'est terminé dans cette rencontre. Les Russes qui s'imposent 22-19 face à la France. Mais c'est un tournoi réussi. Et c'est bien sûr ce qu'il faut garder. Elles sont abattues, les joueuses. Mais médaille d'argent, c'est historique.
On est vraiment très, très, très fiers de ce parcours. Maintenant, on était certaines qu'on était capable d'aller au bout de cette compète et d'aller chercher cette médaille d'or.
C'est la Britannique qui esquive, qui tente de faire des contres. C'est bien, elle est allée au taffé au plexus là. Sarah Ramona avec sa droite, elle va chercher le visage de son adversaire. Elle avance, c'est bien ce qu'elle fait. Allez Sarah, il faut pas lâcher. Il reste 15 secondes, c'est peut-être maintenant que t'es en train de remporter ton or olympique. C'est bien ce qu'elle fait. Elle est allée toucher de son adversaire. Nicolas Adams qui semble marquer le coup dans cette fin de combat. Le direct du gauche, le direct du droit. Allez Sarah, il reste 5 secondes et puis on connaîtra la décision des juges. 2 secondes, on va entendre la cloche derrière moi. Ça y est, c'est terminé. Les deux boxeuses qui tombent dans les bras l'une de l'autre, l'arbitre de la rencontre qui va lever dans quelques instants le bras. Attention, ça va être le bras. Ah, c'est le bras de Nicolas Adams. C'est Nicolas Adams qui est championne olympique des poids mouches. Elle s'est inclinée, Sarah Ouramoun, dans ce combat. 39-37. Finalement, la quatrième reprise a été à l'avantage de la boxeuse britannique Nicolas Adams qui a, semble-t-il, fait mouche sur un coup.
Sur le podium, j'y ai pensé en me disant que c'était la dernière fois. Dernière fois sur un ring, dernière fois dans les vestiaires. Toutes les émotions, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. J'ose espérer que ça ne manquera pas.
Voilà, ça se passe comme ça sur RMC dans l'intégrale Rio 2016. 32-16, si vous voulez débattre avec la Dream Team. On est avec Sarah Pitkovski, avec Serge Simon. On va prendre l'avis de Serge sur Neymar et sur ce qu'ont réalisé les Brésiliens sur le foot. On va débattre aussi dans quelques instants sur l'athlé. Croyez-vous à un titre olympique pour l'athlé français à Tokyo en 2020, vu le bilan fantastique des Français ici à Rio? Juste avant d'ouvrir ces débats-là, Pierrick Ten est avec nous. Départ du marathon, la dernière épreuve de l'athlétisme ici à Rio sous la pluie, Pierrick, dans quelques instants.
Sous la pluie, Loïc, exactement, tu l'as dit, on avait craint les grandes chaleurs, notamment après ce qui s'était passé sur le 50 km marche. On se souvient de la défaillance, de la terrible, des terribles images de Johan Diniz. Finalement, c'est sous la pluie que les concurrents vont prendre le départ dans moins d'une minute maintenant. Et évidemment, on va suivre le grand favori de cette épreuve, Eliud Kipchoge, qui a tout simplement remporté à 31 ans les deux derniers marathons de Londres. C'est un petit peu le juge de paix, le marathon de Londres, pour savoir qui sont les favoris. Son adversaire principal, Stanley Biwott, lui, a pris la deuxième place à Londres. Voilà un petit peu les forces en présence sur ce marathon. Le Kenyan Biwott et le Kenyan Kipchoge, car on voit mal comment ce marathon pourrait échapper à un Kenyan. En tout cas, Kipchoge qui a été en argent sur 5000 mètres à Pékin, en bronze sur 5000 mètres à Athènes en 2004, tentera, pourquoi pas, de remporter son premier marathon olympique. Le départ qui va être donné dans quelques instants, 42 km 175. D'abord 5 km, ensuite 3 boucles de 10 km. On part du Sambodromo, on reviendra au Sambodromo vers un dernier parcours de 7 km 150 qui permettra aux concurrents de rejoindre leur point de départ. Ce sera dans environ 2h05 le coup d'envoi de ce marathon qui va être donné dans quelques instants. Loïc, on revient tout à l'heure.
Ouais. Est-ce qu'il y a juste un Français dans ces marathoniens ou pas du tout?
Aucun Français n'est parvenu à réaliser les minima, donc on va s'expliquer, surtout on l'imagine, entre Africains. Ça y est, c'est parti pour ces marathoniens sous la pluie. On attend donc les premiers pointages intermédiaires aux 5 km pour savoir si un premier groupe se dégage.
Juste un petit mot sur le parcours, ça va donner quoi? Ils vont courir où exactement dans Rio?
Alors ils partent du Sambodromo, ils font une boucle, ils font un départ sur 5 km, ils rentrent en direction, ils longent la baie, puis ils vont faire environ une boucle de 3 boucles de 10 km. Et ensuite ils reviendront sur leur pas en partie, hein, puisque la fin, ça reste assez concentré, on ne va pas partir partout puisque finalement on va tourner autour d'une quinzaine de kilomètres dans Rio.
Bien, 14h30 à Paris, 9h30 à Rio.
RMC, Rio 2016.
On vous récapitule les moments forts à vivre aujourd'hui sur l'antenne avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Loïc, salut à tous. Et trois événements à suivre dans cette dernière journée des Jeux Olympiques de Rio. 17h30, l'épreuve de VTT avec le double champion olympique français Julien Absalon. Victor Koretsky et Maxime Marron tenteront eux aussi d'aller chercher un podium pour la France. Et puis les deux finales, évidemment 19h, finale du tournoi de handball masculin entre la France et le Danemark. Les experts qui visent eux aussi un troisième sacre consécutif. Pour ce match d'ailleurs, Olivier Niokas remplace Mathieu Grébi qui s'est blessé. Et puis 20h15, ce sera de la boxe, la finale des super lourds avec le français Tony Yoka. Je vous rappelle que la France est 7e du classement des nations avec 42 médailles assurées. C'est d'ores et déjà un record. Enfin, je vous rappelle également que la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques sera à vivre dès minuit sur RMC.
Croyez-vous à un titre olympique pour l'athlète français à Rio? On ouvre le débat avec vous au 32-16 et avec la Dream Team dans quelques instants. Juste, Serge, on en débattait avec Sarah il y a quelques minutes. Est-ce que Neymar, selon toi, a refermé la plaie du Mondial 2014 vu l'émotion qu'il a créée hier en allant chercher ce titre olympique avec la Seleção au Maracana?
Non.
Bon, voilà.
Non,
malgré tout, c'est
atténué. Permets-moi de développer un peu.
Vas-y.
Évidemment, ça a été un moment, je crois, important et très agréable pour les Brésiliens. Première question, est-ce que le public que nous avions hier au stade du Maracana était le public du football brésilien le plus ardent? J'en suis pas persuadé, parce qu'il n'y avait pas un melting pot entre un public footballeur et puis un public des Jeux Olympiques, hein, puisque
possible.
On sait que pour acheter des places, il faut faire une espèce de package. Premièrement, deuxièmement, dans sa grande généralité, les fans de foot que sont la quasi-totalité des Brésiliens savent pertinemment l'importance d'une Coupe du Monde de football et la relative importance d'une médaille olympique aux Jeux Olympiques en football, qui ressemble plus à un championnat du monde des espoirs ou quelque chose comme ça.
Même si c'était, je le rappelle, le seul titre qui manquait au palmarès du Brésil.
Oui, mais non. Non.
D'accord.
Par contre, je pense qu'il y a dedans une histoire dans l'histoire, c'est celle de Neymar. Mmh. Qui lui a, pour des raisons de blessure, est passé à côté de la Coupe du Monde et qui a évidemment, donc, de par sa défection, participé au naufrage de l'équipe du Brésil contre l'Allemagne. Et le fait que ça soit par son pied, qu'il y ait cette rédemption du football brésilien, ou cette tentative de rédemption du football brésilien hier contre l'Allemagne, et en plus par un scénario que n'importe quel scénariste d'Hollywood aurait rêvé de pouvoir écrire un jour, il s'est passé quelque chose. Mais faut pas non plus jeter mémé dans les orties. Non, c'est un titre olympique, c'est un bon moment. Mais le comment dit-on le supporter de foot au Brésil, a-t-il un nom? Le carioca, non, ça n'a rien à voir.
Le carioca, c'est l'habitant de Rio. Moi, mais le fan de il y a pas de porte-parole, ça me vient pas là.
Ouais, tu vois, enfin bon, voilà, je pense que lui, l'ultra, le déterminé, celui qui a voué sa vie au football, peut-être que d'ailleurs c'est un stéréotype pour les étrangers, mais en tout cas ça a l'air tellement vrai, la passion football au Brésil. Je pense pas qu'il soit leurré par un titre olympique, même si encore une fois c'est un moment agréable.
Et forcément, ça fait du bien à tous les fans de foot ici au Brésil. Alors, parlons d'athlé désormais, puisque le bilan de l'athlé français est quand même fantastique ici aux Jeux de Rio. 6 médailles, 3 en argent, 3 en bronze. On va les rappeler. L'argent de Milena Robert-Michon au disque, l'argent de Kevin Meyer au décathlon, l'argent de Renaud Lavillenie à la perche, le bronze de Christophe Lemaître sur 200 mètres, le bronze récupéré après réclamation de Maïline Mekissi sur le 3000 mètres steeple, et le bronze de Dimitri Bascou sur le 110 mètres haies. Il y a Bernard Amsalem, le président de la Fédé d'athlé, qui quelques jours évoquait les progrès dans l'organisation, dans l'accompagnement des athlètes tricolores, les progrès de façon globale de l'athlétisme français. Gany Yalouz a également été sur l'antenne hier pour évoquer tout cela. Est-ce que vous croyez en un titre olympique pour l'athlé français à Tokyo? Alors bon, à la perche c'est déjà arrivé, donc on va peut-être mettre juste la perche de côté éventuellement, mais dans une autre discipline, est-ce que aujourd'hui la France est prête à aller chercher une médaille d'or aux Jeux Olympiques, Sarah?
Oui, mais alors une toute petite, parce que quand tu reviens depuis 1984, les médailles d'or qui ont été glanées par l'équipe de France d'athlétisme reviennent quand même en grande majorité à une extraterrestre qui était Marie-Josée Pérec. C'est elle qui est allée en chercher, qui en cherchait quatre, qui était très représentative de l'or. Et puis c'est vrai que c'est la perche historiquement, avec Quignon, avec Galfione, et puis derrière avec Lavillenie. Donc on a quand même pas pléthore de possibilités. Je suis pas sûre qu'en vitesse on soit capable d'aller en chercher. Est-ce que Jimmy Vico, après cette expérience quand même un peu ratée au jeu, peut ambitionner d'autres choses? S'il y a une éclaircie, moi je le verrais du côté du décathlon avec Kevin Meyer, qui est allé chercher l'argent, et qui, face à l'Américain Ervin, qui a dit qu'il serait peut-être pas là aux prochains Jeux Olympiques, pourrait être le salut pour aller chercher de l'or à Tokyo. Voilà.
Effectivement, hein, parce que par exemple Mélina Robert-Michon, qui était notre invitée il y a quelques jours,
c'est une fin de carrière,
elle a 37 ans. Donc, a priori, il y a peu de chances qu'elle soit là, évidemment, à Tokyo. Kevin Meyer est lui tout jeune, hein, 24 ans pour
Meyer.
Oui,
il est en
pleine
ascension. Effectivement... Alors, les autres ont l'impression que c'est une consécration ce qu'ils sont allés chercher, alors que lui est vraiment sur la pente ascendante. Est-ce que Renaud il est quand même plutôt en fin de carrière, il est en train de stagner. Donc si on se projette, la trajectoire ascendante, c'est celle de Kevin Meyer.
Est-ce qu'il y a eu un déclic de passé pour l'athlé français ici à Rio? Quelque chose qui s'est produit avec ce bilan de 6 médailles? 32-16, venez débattre avec nous. Serge?
Oui, moi je crois qu'effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est une très bonne surprise. Et si on tente d'y trouver des explications, j'en vois au moins une. Le DTN, c'est Gany Yalouz, qui est un, bon, on connaît son parcours, qui vient de la lutte, et ça nous permet de mettre un petit peu en lumière cette fonction qui est souvent un petit peu oubliée ou peu connue finalement. Parce que c'est quoi un DTN? On dit le DTN, les gens ils doivent se dire, bah, il y a l'entraîneur, c'est quoi un DTN? Le DTN dans une fédération, c'est le directeur technique national. Il est, sur proposition de la fédération, nommé par le ministre, payé par le ministre. C'est pas un employé de la fédération, c'est un statut un peu particulier. Et outre cette particularité du statut, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu le diapason d'une fédération. C'est lui qui donne le la. Le la technique, on va dire, le là de la formation. C'est lui qui donne la direction, normalement, hein, j'entends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben, il est un peu responsable de l'harmonie de la formation, à la fois des athlètes, pour une discipline comme l'athlétisme, mais des formateurs. Et il faut mettre tout le monde dans le même sens, et c'est cette synergie collective qui va à un moment donné permettre des réussites individuelles pour un sport comme l'athlétisme. Et Gany Yalouz a parfaitement réussi cela, on le sentait depuis des années parce qu'on le connaît tous, et il est ô combien agréable et ô combien sympathique, mais au-delà de cette convivialité, il a eu, je crois, cette capacité à justement mettre en synergie une fédération qui, arrêtons-nous deux secondes par rapport au rugby, mais comparons-la au tennis, a affaire à des... Exactement, tiens, la même topographie que le tennis. C'est-à-dire, ce sont des trajectoires complètement individuelles, avec ceci de plus qu'au tennis, c'est qu'en athlète, c'est en plus les disciplines sont différentes. Là, au tennis, ils jouent tous le même sport. Là, non seulement ils ne font pas tous la même discipline, mais par contre, l'architecture est la même qu'au tennis. Ce sont des microcellules, c'est-à-dire l'athlète et son entraîneur. Et là aussi, l'athlète et son entraîneur, comme au tennis, et on voit bien au tennis comment ça a fini. C'est absolument ils sont programmés pour être individualistes. C'est dur à dire et peut-être que ça va écorcher les oreilles des athlètes ou des proches d'athlètes, mais c'est la vérité. Ils sont programmés pour être auto-centrés, pour être dans leur bulle, de la construire et de la magnifier, de la rendre la plus performante possible. Évidemment, c'est l'opposé dans les sports courts, on comprendra évidemment pourquoi. Et le DTN, il doit à ce moment-là, il a une espèce de double travail. C'est évidemment, il y a cette responsabilité technique, mais il y a cette responsabilité collective d'essayer de faire que tout le monde, à un moment donné, puisse aller dans le même sens avec un même objectif, ce qui crée des partages d'informations, des collaborations, des échanges qu'il n'y avait certainement pas avant. Donc moi, le facteur X de l'athlète, c'est lui. Alors, est-ce que ça veut dire, tu posais la question tout à l'heure, est-ce que dans 4 ans, ça se traduira par de médailles?
Est-ce qu'on a franchi un cap, quelque chose? On a peut-être décomplexé un petit peu l'athlète français par rapport aux autres nations.
On a montré que c'était possible grâce à des données importantes, un DTN qui fonctionne, des athlètes évidemment qui performent, mais un DTN qui fonctionne. Donc on peut pérenniser ça. Est-ce à dire qu'il faut garder Gany Yalouz? Moi, si j'étais Bernard Salem, je n'envisagerais pas une seule seconde de m'en séparer. Croître les chances des athlètes. Vous avez, tu as cité Sarah. L'arrêt de carrière pour certains. Tu as pas cité Christophe Lemaître, alors je sais pas la vie que tu as. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, j'espère que cette médaille sera la première. Le début d'une aventure et non pas la fin. Il a lui-même un peu clos l'hypothèse d'une consécration. Ça l'a peut-être vraiment, lui, décomplexé. Dans 4 ans, si je ne m'abuse, le grand au t-shirt jaune, là, ne sera plus là.
Normalement, il est plus là.
Oui, j'attends de voir. Hein.
Ah ouais, ah. Tu penses?
Qu'il arrêtera le 100 mètres, mais alors le 200, il est pas prêt d'arrêter.
Si t'as des infos qu'on n'a pas aussi,
parce qu'en plus à 1h du matin, il lance le javelot. C'est en plus au javelot, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment.
Image, ça. Donc moi, je pense que il peut se dire. Eh ben je vais en profiter. Hein. L'autre est parti, l'amateur de reggae. On va s'y filer. Peut-être que, et là s'il m'entend, c'est un conseil que je lui donne, se sortir aussi un petit peu de son confort, c'est-à-dire, allez, c'est la dernière chance de ma vie, peut-être à Tokyo, de faire un truc extraordinaire. Je vais casser la routine et je vais changer mon mode de préparation. Je vais aller partir 6 mois ici ou 6 mois là ou 6 mois là, et je parle pas des Maldives ni des Seychelles, hein, je parle des cellules d'entraînement, et d'aller chercher d'autres sources, non pas qu'elles soient meilleures, mais elles sont différentes, pour développer d'autres choses que toujours la même chose chez lui, et tenter un va-tout sur Tokyo. Et moi, je vois une belle chance sur Christophe Lemaître.
Marcus est avec nous au 32-16. Salut Marcus.
Bonjour à tous, comment allez-vous?
Bon, ça va, et toi?
Il fait tout va bien.
Ah bah il pleut à Rio, c'est réglé. Est-ce que Marcus, après ce fantastique bilan de l'athlète français à Rio, tu crois en un titre olympique pour la France à Tokyo?
J'aimerais y croire. Je vais réagir à ce qu'a dit Sarah et je suis d'accord avec elle. Il dit ce qu'il veut, Bolt, mais moi je le vois pas arrêter. je le vois pas arrêter. Alors, par contre, j'aimerais croire que l'athlète française marquera, enfin, qu'on ait un titre olympique enfin. Alors, je peux le croire avec avec Lavillenie. Lavillenie, je pense que là, il s'est un peu raté.
Tu penses qu'il peut aller le rechercher, qu'il peut aller rechercher une médaille d'or?
Lavillenie, alors vous savez, moi je suis entraîneur et Lavillenie, je l'ai lu et écouté réagir. Et l'entraîneur du Brésilien l'avait mis dans les conditions pour aller chercher un titre. Et Lavillenie se fait prendre par ça, je pense. Mais quand j'écoute, dit Lavillenie, hein, voilà, je prends par rapport à ce que dit Lavillenie. Il se fait prendre par ça. Le Brésilien était dans une bulle et Lavillenie était toujours pareil et il a pas senti le coup venir. Mais ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. Il fait deuxième et bravo, moi je veux pas je suis très content de lui et voilà. Le maître, merci Serge d'avoir dit ce que tu as dit. Il faut qu'il change. Moi je suis d'accord avec toi, il faut qu'il aille voir autre chose qui est en danger. Parce que moi j'étais très très déçu de ces 4 dernières années. Il y a 4 ans, je l'ai beaucoup soutenu après Londres quand il avait foiré. Parce que voilà, c'était compliqué, il avait 22 ans et la programmation est compliquée, je peux comprendre. Maintenant, moi si on veut avoir une médaille d'or au JO sur n'importe quelle discipline, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du monde au niveau, il faut qu'il y ait du monde dès l'année prochaine. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de faire des performances, mais qu'on leur donne la possibilité, le temps, l'argent, et qu'ils aient la volonté, mais je pense que la volonté, ils l'auront. Nous, la volonté, on l'a en France. On l'a toujours. Regardez la boxe, on l'a, la volonté. Donc, les athlètes français, ils l'ont, la volonté. Le problème, c'est qu'ils ont trop de parasites extérieurs qui les empêchent d'avancer. Je ne vais pas revenir sur le reportage où on a vu la Française du 400 haies galérer comme pas possible pour pouvoir s'entraîner et tout. Ça suffit. Il faut les mettre, non pas dans le confort, comme dit Serge, mais il faut leur dire, voilà, on vous donne la possibilité d'y arriver, vous allez travailler pour y arriver, mais il ne faut pas qu'ils soient 1, 2, il faut qu'on ait 5, 6 qui se battent. C'est comme ça que ça va monter. Et c'est comme ça que dans les compétitions internationales, on va pouvoir, des gens vont commencer à faire des performances, parce que de toute façon, on n'en a qu'un. On a Mélina au disque, on n'en a qu'une. On a Mekissi, on n'en a qu'un. On a le maître, on n'en a qu'un. Et encore, je dirais...
Il faut plus d'émulation.
Il y a Jimmy Vico,
c'est vrai. Il faut plus d'émulation par discipline pour toi, Marcus, c'est ça.
Jimmy Vico, il est arrivé. Ça y est, pour moi, il est arrivé. Maintenant, c'est mentalement qu'il a eu des petits soucis de se mettre en route. C'est pas grave, ça va venir. Mais Jimmy Vico, il est arrivé. Le maître, c'est plus un problème, moi, je pense, de préparation. Ça va pas. Pour moi, ça va pas. Même si il s'est bien remis sur la fin, ça va pas. Mais il faut de l'émulation, il faut du monde. Et il faut que ces athlètes, ils aient la capacité, on leur donne la capacité de s'entraîner tout le temps, dans de bonnes conditions, je ne dis pas dans un fauteuil, mais qu'ils ne se disent pas, mince, demain, il faut que j'aille faire ci, là, il faut que j'aille courir là. Non, il faut qu'ils soient pros. Mmh. Et les Français, nos athlètes, sont capables de se faire du mal, et ne veulent que ça, se faire du mal, et ils vont y arriver. Mais il faut leur faire confiance, et il faut leur donner, il faut que l'argent arrive là où il doit arriver. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour le moment, et Serge, je suis d'accord avec toi pour plein de choses, et encore une fois, Sarah, t'as raison pour Bolt, parce que moi, qu'il arrête là, j'y crois pas du tout. Le 100 mètres peut-être, et encore, il peut très bien arrêter une année et demie, et repartir, parce qu'il a même pas 30 ans, donc c'est bon.
En même temps, il en court pas beaucoup des 100 mètres. Hein.
En plus,
s'il en court un tous les deux ans...
On va déjà voir ce qui va se passer l'année prochaine, puisqu'il y a des mondiaux, hein, l'année prochaine, des mondiaux d'athlètes à Londres, donc on verra ce que fait Bolt, et surtout ce que font les Français, combien de Français seront en lice, et voir si ils pourront, pour certains, surfer sur leurs bons résultats ici au jeu de Rio. Merci Marcus, en tout cas, pour ton appel au 32-16. Tiens, quelques petits messages sur le hashtag RMC Live. Il y a Lutz qui nous dit, c'est loin encore Tokyo, mais soyons positifs, de l'or en athlétisme, bien sûr que c'est possible, il faut soutenir cette équipe de France. Il y a Cagnois qui nous dit, un titre en or à Tokyo en athlé, pour les Français il va vraiment falloir bosser, nous dit-il. Et puis il ajoute, Serge, il y a le Canadien quand même, André de Grasse qui remplacera Bolt, si Bolt n'est pas là. Le maître n'a aucune chance contre le Canadien, même, nous dit-il. Ah, voilà. Moi je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose.
De Grasse ne semble pas extraterrestre comme Bolt,
non,
très performant,
pas avec les mêmes capacités, c'est clair. On va se poursuivre l'intégrale Rio 2016 dans quelques instants. On garde un œil attentif sur le marathon. On va faire un point précis dans quelques secondes sur la course. On va être avec John Dovi, l'entraîneur national de la boxe française, puisqu'on va vivre en direct ce soir le dernier combat des boxeurs français, celui de Tony Yoka, en plus de 91 kilos. L'occasion de faire le bilan avec lui et de qu'il nous dise tout de l'état de forme aujourd'hui, de l'état d'esprit aussi de Tony Yoka à quelques heures de son combat. A tout de suite, 32-16, hashtag RMC Live.
RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Avec un Dream Team Olympique qui est avec nous, Serge Simon, Sarah Pitkowski, on vous attend au 32-16 pour participer à l'intégrale Rio 2016. Trois gros événements à venir et pourquoi pas trois médailles d'or à aller chercher pour finir ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Le VTT à 17h30 avec notamment Julien Absalon, le handball masculin, la finale France-Danemark à 19h pour une troisième médaille d'or olympique consécutive pour les Bleus. Et puis à 20h15, la boxe, la finale des plus de 91 kilos. Et le combat de Tony Yoka face à l'anglais Joe Joyce. On en parle dans quelques instants avec John Dovi. Juste avant, Pierrick Ten, un point sur le marathon de Rio qui est parti depuis 20 minutes maintenant.
21 minutes et 45 secondes exactement pour ce marathon. 6 km 900 de course, c'est pas un hasard. Hein. Si on retrouve les Éthiopiens et les Kenyans devant, je vous parlais tout à l'heure notamment des Kenyans Biwott et Kipchoge. Ils sont en tête, ils sont dans le groupe de tête où on trouve une trentaine de coureurs. On retrouve également les Éthiopiens, Lemi Beranou et Tesfaye Abera. C'est simple, ce sont tout simplement ceux qui ont réalisé les meilleures performances cette saison. On risque de s'expliquer entre Éthiopiens et Kenyans. On rappelle également que ce parcours se déroule sous la pluie. On est parti du Sambodromo. On reviendra au Sambodromo dans quelques instants maintenant.
John Dovi est en direct avec nous, Sarah et Serge, l'entraîneur national de l'équipe de France de boxe. Bonsoir John.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour, je suis complètement décalé. Bonjour John, 6 médailles pour la boxe, je le rappelle, l'or d'Estelle Mosselli en moins de 60 kilos, les deux argents de Sarah Ouramoun et de Sofia Noumia et les deux bronzes de Souleymane Sissoko et de Mathieu Boderlic. En attendant le dernier combat, celui de Tony Yoka en plus de 91 kilos, ce sera dans 5 grosses heures maintenant. Racontez-nous juste l'état d'esprit de Tony Yoka aujourd'hui, comment va-t-il, comment le sentez-vous?
Bah écoutez, il est très très bien. Il est comme un jour de finale olympique. On a été à la pesée ce matin qui s'est très bien passé. Donc il a fait une visite médicale ce matin et puis bon, là il se repose et il sera fin prêt pour boxer cet après-midi. Cet après-midi chez nous. Hein.
Oui, absolument. Je rappelle l'heure pour l'heure française, ce sera 20h15. Donc effectivement 15h15 en heure locale. Comment va sa cheville? Parce qu'on l'avait vu en délicatesse lors de son dernier combat, que ça l'avait un petit peu gêné. Comment ça va à ce niveau-là?
Ça va beaucoup mieux. C'est une légère entorse, mais il s'est très bien fait soigner par le service médical ici, qui est à Rio, et il sera frappé et puis ça va très bien. Faut pas s'inquiéter. On essaie de pas trop lui en parler parce qu'il faut pas que ça soit un frein à sa performance. Mmh. Mais il est bien, ça va. Ça va très bien.
Une question pour John Dovi. Ah,
alors, c'est pas une question, c'est simplement, je voulais profiter de cette chance de l'avoir en direct pour dire de vive voix ce que j'ai dit plein de fois sur l'antenne et à la télé aussi. Toute mon admiration pour la performance de l'équipe de France et dans, évidemment, la partie sportive et dans son comportement, dans sa dignité, dans l'image qu'elle renvoie du sport, des parcours, des personnalités qu'il y a derrière, de la solidarité, des valeurs incroyables qu'on sent dans cette équipe derrière, des Sarah Ouramoun, des Estelle Mosley, des Tony Yoka et j'en oublie d'autres, pardon. Et évidemment cet état d'esprit, c'est pas la magie générationnelle de gens qui se rencontrent, c'est un staff et voilà, bravo, mais très sincèrement bravo et très fier de partager ces moments avec vous en étant à vos côtés et très fier d'être français derrière l'équipe de France de boxe, bravo.
Merci, merci beaucoup. Merci. C'est comme on le disait la dernière fois, c'est un groupe, c'est un vrai groupe avec effectivement différentes personnalités. Et puis ça reste des athlètes français avant tout et qui sont fiers de porter ce maillot et de représenter un pays. Et en tout cas, ils le font avec beaucoup, beaucoup de fierté.
Ouais, et si vous cherchez un vrai super lourd, je suis dispo.
Ah ouais, d'accord. T'es prêt à te lancer?
Et une super coque, comment les petits gabarits également chez les filles pour
ça? Ah non, mais non. Moi, j'ai beaucoup d'admiration d'admiration pour Sarah Ouramoun parce que je vois sa taille et je vois le poids et je pense que ça doit être une souffrance terrible d'être en dessous de 51 kilos. C'est non, ça la seule chose qui me parle.
Non, pas forcément. Elle a pas de difficulté. Alors, en tout cas, vous concernant, faudrait voir combien vous pesez, faudrait savoir. Mais par contre, c'est une chose qu'on entend.
Ouais, non, mais après, les détails, ça va aller. Non, mais il y a des moments, il faut rester discrète.
Ça rappelle juste une question pour John, ouais.
Pour revenir sur Tony, sur le combat de Tony Yoka, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son adversaire? Tony l'a battu, je crois, en demi des mondiaux, mais c'est quel type de boxeur, en fait?
Le Britannique Joe Joyce.
Voilà, c'est un boxeur en particulier, hein, parce qu'il est, il fait quasiment la même taille que Tony, et il doit rendre quasiment presque 10 kilos à Tony, et il est très massif. Et contrairement à son style un peu pâteau, un peu linéaire, un peu basique, c'est un boxeur qui est un faux lent, ce qu'on appelle un faux lent, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est lent, lourd, et c'est pas du tout le cas. On voit les coups partir, on les voit pas arriver. Et l'avantage de ce boxeur, en plus, c'est qu'il a une frappe très très lourde. De son gabarit, ne serait-ce que par les petits coups qu'il peut mettre, vous savez, quand il y a 120 kilos qui arrivent au bout d'un point, ça fait très très mal, même s'il est donné de façon très lente. Et c'est un boxeur aussi qui est toujours sur l'homme, il est toujours dessus. C'est un boxeur offensif qui recule jamais. Alors,
en termes d'allonge, le fait d'avoir des grands segments, c'est un avantage ou pas pour Tony?
Tony, ses plus longs segments, ils sont un peu supérieurs à lui, mais qui sont pas un réel avantage là. L'avantage de Tony, c'est plus sa mobilité. C'est un boxeur qui est très mobile pour un boxeur de cette catégorie-là, qui bouge très très bien sur le ring, qui gère très très bien l'espace-temps géré sur le ring, et qui arrive à emmener le boxeur où il veut. Et c'est très perturbateur pour des boxeurs justement de ce gabarit-là, qui sont habitués à voir face à eux des adversaires qui restent un peu sur place.
J'ai trouvé Tony justement très fixe face aux Croates. Il se mettait dans l'axe, alors que d'habitude, effectivement, vous le dites, il danse si bien, il tourne, il fait penser son à Mohamed Ali, oui. Je l'ai dit. Il était heures, très très ouais, fixe. Est-ce que c'était une stratégie?
Alors le tout. Alors vous savez, le tout, c'est pour des boxeurs de ce niveau-là qui s'arrivent. Vous savez, dans ce carré-là, on s'est rendu compte que ce carré-là, les quatre demi-finalistes, c'était les quatre mêmes demi-finalistes qui avaient au championnat du monde. Donc, c'est des boxeurs qui se connaissent, qui sont rencontrés déjà même en junior, qui sont boxés 3-4 fois pour la plupart, et qui se connaissent parfaitement. Le tout, selon les compétitions, selon le niveau de compétition ils se rencontrent, le stade de la compétition, c'est de proposer des tactiques différentes pour pouvoir les perturber. Parce que on fait tous la même chose, on fait des analyses vidéo, on se regarde, on s'observe, ouais. On se jauge, on voit les comportements que les adversaires ont eu face à d'autres boxeurs autour d'avant. Donc, on ne peut pas rester sur une tactique linéaire, même si elle a déjà marché avant.
D'accord.
Comme on dit, un combat de boxe.
Il a boxé un peu contre nature, contre le croate.
En tout cas, il faut perturber le croate. Il a fallu perturber. Mmh. Il a fallu proposer et faire autre chose.
Je comprends mieux.
Une des conditions, c'est quoi là, sur un boxe amateur, parce qu'il n'y a que 3 rounds, il faut à tout prix. C'est très, très, très important de gagner le premier round. C'est très important de gagner le premier round. Parce que ça libère l'esprit, tactiquement, pour la suite. Et dans l'esprit des juges aussi, le fait d'avoir mené les débats dans le premier round, ça porte une espèce d'influence sur la suite du combat. Si le combat est très serré, le fait d'avoir remporté le premier round, ça nous donne un léger avantage, je dirais même psychologique, pour le boxeur.
Merci. Coup John Dovi, on est un petit peu pris par le temps malheureusement. On vous souhaite une bonne préparation, un super combat pour Tony Yoka que l'on suivra et que l'on vivra bien sûr en direct sur RMC 20h15. Hein. Retenez bien 20h15 pour, on l'espère, la médaille d'or pour Tony Yoka en plus de 91 kilos donc face à l'anglais Joe Joyce. On va poursuivre l'intégrale Rio 2016 bien sûr dans quelques instants avec Sarah et Serge. On va revenir sur le bilan de la France assurée de repartir du Brésil avec 42 médailles au moins, 9 titres olympique à l'heure où on se parle et ça pourrait s'alourdir dans la journée bien sûr. Quelle valeur pour vous à ce classement des médailles? Faut-il plus se baser sur les médailles d'or, sur le global? On va débattre avec vous au 32-16 et puis on reviendra aussi sur le Brésil. A-t-il été un bon pays hôte? On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. L'intégrale Rio 2016 se poursuit.
RMC Intégrale Rio 2016.